Vous écoutez France Culture. Vous écoutez France Culture, il est 10h. Les humanités. Aujourd'hui, les vendredis de la philosophie par François Noudelman.
Les vendredis de la philosophie sont consacrés aujourd'hui au fantasque Balthazar Gracian. Le philosophe espagnol du XVIIe siècle, Balthazar Gracian, après avoir rédigé des traités de politique et de morale, écrivit à la fin de sa vie un roman, le Criticon. Son goût des allégories donne à ce livre l'apparence d'un récit édifiant, mais son auteur est un jésuite indiscipliné, qui ne cesse de jouer avec les apparences. Le parcours proposé au lecteur relève du roman d'apprentissage, rythmant les âges de la vie du printemps à l'hiver. Les deux personnages principaux traversent les illusions du néant jusqu'à la révélation du vrai bonheur. Cependant, Balthazar Gracian en profite pour régler ses comptes avec toutes les autorités du monde terrestre et le récit se transforme en roman picaresque mêlant la satire au fantastique. Du coup, la leçon philosophique devient une glorification du jeu langagier et de l'esprit baroque. Pour parler de ce livre, j'ai invité Benito Pellegrin, est professeur émérite de l'Université de Provence et qui est donc l'auteur d'une nouvelle traduction et une présentation du Criticon au Seuil. Jean-Paul Coujou, professeur en classe préparatoire au lycée Pierre de Fermat à Toulouse et à la faculté de philosophie de l'Institut catholique de la même ville. Et Stéphane Vaquero, professeur au lycée Jean Moulin à Draguignan. Avant d'entrer dans ce texte foisonnant, ce grand texte, le Criticon, Benito Pellegrin, je crois qu'il faudrait... rappeler un petit peu la figure de Balthazar Gracian, un peu ses œuvres, parce que même s'il est de plus en plus connu, grâce à vous notamment,
merci.
Il faut quand même rappeler un petit peu l'histoire, le contexte. Qui est Balthazar Gracian ?
Eh bien, moi qui me suis toujours méfié des approches biographiques, je crois que... peut-être en vieillissant aussi, j'ai de plus en plus d'affection justement pour la vie, en fait ce que l'on en connaît, le caractère de ce personnage qui est un jésuite très incommode. Il est né en 1601, c'est-à-dire c'est encore dans le siècle d'or espagnol à son plus grand sommet. Et il meurt en 1658, une année avant le traité des Pyrénées qui voit l'éclipse politique en Europe de l'Espagne. Donc, il a traversé un demi-siècle pratiquement de grandeur et de décadence aussi très nette de l'Espagne. Alors très jeune, il entre dans la compagnie de Jésus et très vite, il se fait remarquer par un caractère très indiscipliné puisque ses supérieurs, très tôt, il y avait des visiteurs, des médecins qui faisaient des fiches sur le physique et le moral, le mental des jésuites et il est noté comme fauteur de troubles. Et croit de ses supérieurs, ce qui n'est quand même pas mal. Et il est aragonais, il faut dire aussi, c'est très important, il est aragonais. Et l'Aragon, ça a été qui a été un peu apparemment éclipsé par l'hégémonie de la Castille. Mais enfin, c'est un royaume d'Aragon où il y a des vice-rois et qui a une grandeur indubitable pour l'Espagne globale et un grand empire méditerranéen et dont la grandeur résonne dans les œuvres de Gracian qui se revendique très aragonais, mais dirait-on aujourd'hui au-dessus des nations et des frontières oui. de la péninsule. Hein,
ça, on verra ça dans le Criticon. Il y a des histoires sur les nations, qui luttent entre les nations.
Ah, c'est terrible.
C'est fort, oui. Mais on va y venir. Mais alors, il a été quand même aussi un grand prédicateur, quand même. Hein. Il est indiscipliné, mais quand même aussi, il a joué le jeu.
Prédicateur, nous l'avons.
À Madrid.
Peu de choses ou rien, pratiquement, si ce n'est dans l'un de ses livres, Art et figure de l'esprit, qui était Agudeza del Ingenio, où il y a des sermons, où je crois qu'il y a des extraits à lui, puisqu'il cite avec pas mal d'éloges, un auteur chrétien, un auteur voilà, oui. dont on ne dira pas le nom, mais enfin, suivez mon regard, c'est sûrement lui. C'est sûrement lui. Et en Aragon, il fait la connaissance d'un riche gentilhomme, Lastanos, dont il devient l'ami et le protégé. Et en 1637, il publie son premier livre qui s'appelle Le Héros. C'est très très bref, une vingtaine de pages. Un traité finalement du prince chrétien anti-machiavélien. Enfin, je pense qu'on pourra discuter sur le côté anti-machiavélien relatif de, ou de façade, je n'en sais rien, de ce livre-là, Le Héros. Ensuite, c'est son mécène qui le publie, Lastanos. Ensuite, deux ans après, il devient chapelain, donc il a du succès, il devient chapelain du vice-roi d'Aragon et de Navarre, qui est un Italien, un grand seigneur italien, mais enfin, l'Italie est aux trois quarts espagnol à cette époque-là, il ne faut pas l'oublier, napolitain, qui est très vite compromis avec, en 1640, c'est le soulèvement de la Catalogne, c'est le soulèvement du Portugal, qui s'émancipera 30 années après, pratiquement, de la couronne espagnole, et il écrit un livre, Le Politique, encore plus bref, qui est une sorte de dissertation à la gloire de Ferdinand le catholique qui a fait l'unité de l'Espagne.
Oui. Alors on connaît surtout aussi le net homme, le El Discreto, ça c'est...
Cela vient après, et il a publié le premier livre dédié, la première édition au roi, le second au vice-roi. Et le troisième dont vous parlez, l'honnête homme, le discreto, il le dédicace à l'enfant Balthazar Carlos, celui qui a été peint sur un petit poney par Velázquez et sur lequel l'Espagne mise ses espoirs de régénérescence, dirait-on, dynastique. Et qui marquera un peu l'Occident dans la mesure où c'est un peu le traité de savoir-vivre qui prend le relais de Castiglione et l'honnête homme de Faré qu'il pille aussi en France de 1636 et qui va courir aussi l'Europe imposant l'idée de l'homme de salon. Alors on est passé du héros politique et guerrier à l'homme de salon, qui est quelque chose de plus vivable, de plus socialement, l'homme des salons, des bonnes manières. Ensuite...
Alors, l'oracle manuel...
vient après. Oui. L'oracle manuel, c'est comme... il reprend les aphorismes, parce qu'il a un style très bref et aphoristique dans ces livres-là. Il reprend des aphorismes qui sont dans ces œuvres-là, mais il en invente, il en apporte beaucoup d'autres. L'oracle manuel qui va avoir un sort extraordinaire, puisqu'en France, on lit l'espagnol, et dans les salons, Madame de Sablé en traduit des Maximes.
Oui, il est beaucoup lu par les moralistes,
voilà,
La Rochefoucauld.
Pascal Turmand, La Rochefoucauld, qui souvent fait quelques traductions littérales pratiquement de ses aphorismes. Sûrement Le Chevalier de Méret, énormément, et donc tous ces moralistes-là, ce monde des salons, intronise Gratian, le jésuite, notamment à travers les salons jansénistes de Madame de Sablé. Et de La Rochefoucauld. Mmh. Ensuite, donc, l'oracle manuel aura un sort extraordinaire puisqu'en 1684, il y a une traduction en français inspirée des traductions italiennes de Venise par Amelot de la Houssaye. C'est une vision très, très partiellement française, l'homme de cour, alors que c'est un livre qui s'adresse à l'homme tout court et qui va courir l'Europe, qui va être traduit dans toutes les langues, même en suédois, en russe...
Alors, on peut être un petit peu accéléré pour arriver au Criticon. Donc, il y a eu ensuite l'art et les figures de l'esprit. Et puis, à la fin de sa vie, pourquoi un jésuite, philosophe, écrit-il un roman ? Pourquoi ?
Pourquoi ? Je ne peux pas à sa place. Mais,
vous l'avez quand même travaillé suffisamment longtemps.
Bien sûr. J'ai mon idée que je vais essayer de vous dire. C'est que dans Art et figure de l'esprit, qui est une rétrospection, c'est comment un fonctionnement de l'esprit, c'est-à-dire qui anticipe de très très loin Jean-Paul, les travaux de Jean-Paul et de Freud. Comment fonctionne l'esprit, ce paradoxe, le mot d'esprit, c'est-à-dire une espèce de phénoménologie de l'esprit où on ne peut approcher cet esprit incernable, son essence, que par le mot, par le phénomène, par le mot extérieur. C'est une approche d'une incernable essence. Et il réfléchit sur le style, en fait, des origines latines, de la littérature jusqu'à la plus contemporaine de son temps, Gongora. Et à partir de là, il y a une projection aussi sur les styles. Oui. Et c'est-à-dire que il a une espèce d'ambition. Tous les livres qu'il a faits, qui sont dans des registres différents, il essaie toujours d'être le meilleur là-dedans. Et là, il se lance dans un roman qui est un dépassement et en même temps une concrétisation de toutes ces théories de la figure, du mot d'esprit, qui est dans Art et figure de l'esprit.
Oui, voilà. D'accord. Alors, Stéphane Vaquero, alors ce livre, El Criticón, c'est l'application au roman des idées de Baltasar Gracián.
Je suis d'accord avec Benito Pellegrin. Et en cela, d'ailleurs, le Criticón est vraiment un roman allégorique baroque. Et je m'explique, c'est que l'art de l'esprit, si vous voulez, c'est toute la... L'arte de ingenio, c'est comment l'esprit, finalement, fabrique des fictions. C'est-à-dire que tout concept... Oui. Tout concept est une fiction de l'esprit. Et on est là, si vous voulez, moi je pense, c'est pour ça que c'est un roman baroque et que l'art de l'esprit est aussi un traité baroque. Moi je dirais un traité baroque d'épistémologie, parce qu'on est en affaire à une crise de la représentation. Et c'est-à-dire que, pour reprendre le propos bien connu de Michel Foucault, au fond, c'est une représentation qui ne représente plus que sa représentativité, et c'est une représentation qui s'effondre. Et le Criticón, c'est la réalisation de ça. C'est-à-dire, Gracián le dit dans la dédicace, puisqu'il dit qu'au fond, il propose dans le Criticón, c'est le cours de ta vie, dit-il, en un discours. C'est-à-dire que la réalité, l'existence, n'est rien d'autre que le discours sur la réalité et l'existence, au point que ce discours fait ce qu'il dit. Il fait ce qu'il dit, il aurait réalisé en cela que c'est, me semble-t-il, que c'est baroque, c'est-à-dire que la représentation vient prendre la place de la réalité. Et il y a un passage dans le Criticón qui est, me semble-t-il, intéressant de ce point de vue. C'est le chapitre 12, enfin la crisi 12 de la première partie, qui s'intitule « Les charmes de Falsirena », de la fausse sirène. Bon. Et où Falsirena invite les deux protagonistes, parce qu'il faudrait dire deux mots de l'histoire, mais les deux protagonistes du roman, Andreño et Critilo, qui sont en fait le fils et le père, à la recherche d'une troisième, Felicinda, qui est la mère, mais qu'ils ne trouveront jamais. Donc, ils partent à sa recherche, et ils tombent sur Falsirena. Et Falsirena les invite dans son palais et leur montre des tableaux qui représentent leur vie, c'est-à-dire tout ce qu'ils ont déjà vécu. Et au bout du compte, ils vont s'apercevoir que Falsirena, en fait, n'est qu'une illusion. C'est-à-dire que tout ce qu'ils ont vu dans ce palais n'était qu'illusoire, y compris leur représentation picturale. On a affaire, vous voyez, on a affaire à un roman allégorique qui n'est qu'une représentation, dans lequel on installe une représentation, c'est proprement une mise en abîme de la représentation, hein, qui s'effondre et qui dit qu'au fond, c'est le thème baroque classique du monde comme théâtre, hein, que tout n'est que représentation.
Oui, oui. Alors, revenons quand même effectivement à l'histoire elle-même, parce que vous avez tout de suite dit, voilà, il y a différentes crises. Déjà, il va falloir nous expliquer aussi le titre, hein, c'est un roman des crises. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Alors, vous avez déjà cité les deux personnages, hein, Critilo et Andreño. Rappelons un petit peu le contexte. Ça commence après un naufrage sur une île, hein, loin de l'Europe.
C'est la tradition du roman baroque, du roman grec, oui. Un naufragé dans une île qui est sauvé par un jeune garçon, un jeune Tarzan, qui ne parle pas,
qui est Andreño.
Qui est Andreño, dont Andreño c'est le corps, c'est l'homme, c'est l'instinct, et Critil, c'est le critère, c'est l'intelligence, donc c'est en deux, c'est l'homme. Oui. Et ils vont être sauvés par...
Mais alors Andreño, quand même, vous dites c'est le corps, etc., mais enfin, il évolue très vite, parce qu'on voit que quand il évoque les premières questions qui lui sont venues à l'esprit lorsqu'il est sorti de sa grotte. Hein, c'est tout de suite des questions philosophiques.
Le cogito,
voilà, oui. C'est ça. C'est déjà, voilà, on a l'impression qu'il est cartésien dès qu'il s'est mis à raisonner.
Oui, sans doute cartésien, en passant par Ibn Tufayl, le philosophe autodidacte, le roman du début du XIIIe siècle, Arabi-Gondalou, dont on ne sait pas comment il a pu parvenir jusqu'à notre jésuite. Mais il se pose des questions philosophiques, mais qui tombent pratiquement, dirait-on, sous le sens. C'est pas, oui, je pense, dont je suis. Peut-être aussi, il y avait la version latine, évidemment, de Descartes. Mais c'est
Je sens
aussi, voilà, qu'on, oui, trouve chez, aussi chez Calderon, dans La vie est un, oui, songe. Hein. Je sens, je pense, je sens. Il y a aussi l'essence. Et c'est pas... C'est qui suis-je ? Et je ne puis le savoir que par toi, dit-il à Critil. C'est par l'autre qu'on sait qui l'on est. Il se pose des questions, évidemment. Et à partir de là, c'est sûr qu'il y a une espèce de faculté qui est celle de l'homme d'apprentissage qui fait que Critil va être le déversoir de toutes les connaissances et il va l'éduquer. En cela, c'est le roman d'éducation. Ils vont parcourir, ils vont arriver en Espagne sauvés par un navire. Ils vont parcourir l'Europe jusqu'à une autre île qui sera l'île de l'immortalité, qui boucle la boucle. Et comme disait Stéphane Vaquero très très justement, c'est la représentation, c'est l'écriture qui représente le cours, oui, de ta vie en un discours. Et la dernière île renvoie à la première du début.
Oui, c'est Ostie.
Voilà, c'est traverser l'Ostie, qui, bah, oui, l'Ostie, oui, de Rome, mais l'Ostie aussi du sacrifice, c'est la mort, oui, et l'Ostie de la sanctification.
Voilà, parce qu'il le met avec un H, oui.
Voilà.
Alors, enfin, je ne sais pas, parce que je vois la traduction.
Oui, bien sûr.
Voilà, bon, on pourrait croire quand même qu'il s'agit d'un roman. Rasoir, non, parce que l'idée d'un philosophe qui, à la fin de sa vie, veut mettre ses idées dans un roman, généralement, ça donne le pire. Alors, on se dit, ah, voilà, c'est un roman d'apprentissage, une sorte de pédagogie pour ceux qui n'ont pas été capables de lire les précédents textes. Or, c'est pas du tout le cas. C'est ça. Alors, on l'a bien senti un petit peu avec ce que nous a dit Stéphane Vaquero, qu'il y a un travail sur le baroque, sur la représentation. Alors, il y a un peu un mélange de, à la fois de, presque, on pourrait dire, au départ, de naïveté. Voilà, tout d'un coup, il sort de sa grotte et il se pose des questions métaphysiques et puis ils vont répondre peu à peu, voilà. Il y a des allégories. D'ailleurs, sur la question de l'allégorie, je ne sais pas, moi j'ai eu le sentiment que, à la fois, bon, l'allégorie, elle peut être très pesante, mais en même temps, il y a une telle accumulation d'allégories que, finalement, l'allégorie ne fonctionne plus selon ce qu'elle devrait signifier, quoi. Elle ne met pas simplement en scène, comme ça, une histoire qui a un sens premier, mais elle vaut pour elle-même. Enfin, je ne sais pas, c'est l'impression que j'ai eue et qui fait quand même, d'ailleurs, que ce roman, du coup, n'est pas simplement un roman à thèse, quoi.
Oui, je pense que c'est une perception, et c'est-à-dire que c'est un roman aussi qui est incernable, dans la mesure où, oui, il reprend des idées qu'il veut appliquer, même politiquement, Jean-Paul Coujou pourra sans doute en parler, mais il y a cette chose tout à fait extraordinaire qui va lui valoir les pires désagréments, parce que cela, ça va être tout à fait polémique.
Je crois qu'il faut le rappeler, Benito Belgrin, c'est-à-dire qu'il a été, par la suite, chassé de Saragosse, il a demandé en vain à quitter la Compagnie de Jésus. Enfin, ça lui a attiré les pires ennuis, ce texte.
Alors que ses premiers traités, qui sont des traités d'obédience malgré tout, machiavéliques, dont on peut discuter, évidemment, l'inspiration chrétienne, pour le moins, et qu'il a publié tous sans autorisation qui était obligatoire de la Compagnie, sous le nom de son frère.
Est-ce qu'on pourrait aussi rappeler
Lorenzo Gracia,
les pseudonymes.
Il s'appelle Balthazar de la Compagnie de Jésus, ouais, et il les signe ses livres sous le nom de Laurent, qui est le nom de son frère puiné. Ouais.
Puis il y a aussi l'anagramme aussi.
L'anagramme, c'est la première partie du Triptyque en 1551. Donc il y a, pendant 10 ans, il a publié de 37 à 47 des livres qui peuvent être discutables du point de vue moral. Et à partir de là, ce livre moralisateur et qui lui vaut les pires ennuis.
Oui, parce qu'en fait, on sait que c'est lui.
C'est transparent.
Il s'en transparent. Amuse dès le début du texte. Il dit, voilà, c'est pas comme ce Gracian.
Critique Gracian, de Doire et figure de l'esprit, va critiquer ce livre-ci. Et là, il prend le nom de Garcia de Marlon, ce qui est transparent, puisqu'il y avait les approbations royales, jésuitiques. Oui. Et chaque fois, on sait que c'est le père Balthazar. On l'appelle le père Laurent.
Entre parenthèses, comment on peut interpréter le fait que, puisque ce livre a été composé en 3 parties, qui n'ont pas été écrites au même moment, publiées au même moment, et entre-temps, il publie un texte qui, pour le coup, là, est, bon, l'art de communier est signé le père Balthazar. Alors, est-ce que c'est une concession qu'il fait à la compagnie pour montrer qu'il est parfaitement dans la norme ou est-ce qu'il s'amuse aussi comment le comprendre ? En même temps que l'écriture du roman, hein, en trois fois, il écrit ce texte-là.
Oui, c'est-à-dire que la première partie du Critique en 1551, il est dénoncé à Rome.
Oui.
Il est dénoncé à Rome par des ennemis. Il y a de gros problèmes. Et entre-temps, il remplit d'autres tâches très, très importantes. Il est élevé à la chaire de philosophie et d'écriture de Saragosse, qui était très importante. Donc, il reçoit des honneurs. Il est très connu.
Il est traduit
pratiquement. Il adore ça. Il le dit dans ses lettres.
Oui.
Et puis,
il aime l'argent.
Et le Criticon, c'est le premier livre, il le publie lui-même, à ses frais, il le dit dans une lettre. Les autres ont été publiés par son mécène Lastanos, dont il était une espèce de rupture par rapport à ses amis de son clan défensif. Mais ce roman est très différent, c'est une fiction. Et là, j'en reviens à ce que je voulais dire au départ, c'est qu'ici, par rapport à Art et figure de l'esprit, il veut être, pour moi, l'auteur total de tous les styles. Et il emploie, dans le sens rhétorique, toute la pluralité des styles qui font que il y a le style haut, le style noble, il a été jusque-là dans le registre noble, il y a le style moyen et le style bas. Et ici, il embrasse tous les styles, et parfois c'est scatologique.
Oui.
Il parle de mort, il parle de serre humaine, il parle d'état d'allusion très graveleuse, sexuelle, et ça indigne ses amis de Saragosse.
Oui.
Il est dénoncé à Rome, et il donne des gages de bonne volonté, et en 52, alors qu'on lui interdit de publier, En 53, il récidive, il republie la seconde partie, mais sous son nom d'auteur célèbre, Lorenzo, il en revient, et toujours sans autorisation. Et là, il a des punitions, il est vraiment. Et là, on ne sait pas, il engage encore une fois de bonne volonté, il écrit un livre pieux, Un art de communier, 1656, et il dit, de façon très provocante au début, que ce livre-là, qu'il signe le père Balthazar de la Compagnie de Jésus, le père. Et c'est-à-dire que la paternité des autres livres, il la renie pas, mais que celui-ci, c'est un vœu qu'il a fait dans un danger de mort. Voilà.
Oui, d'accord. Jean-Paul Coujou, alors, je reprends ma question, roman philosophique, roman d'apprentissage, qui confond, la fiction pour la fiction, mais aussi la fiction pour l'édification. Comment prendre ce texte ? Vous voyez aussi l'ensemble de l'œuvre, puisque vous avez travaillé sur l'ensemble de l'œuvre de Graciane. Quelle place lui donner dans l'œuvre de Balthazar Graciane ?
Bon, tout d'abord, il convient de resituer au niveau du courant politique et historique l'œuvre de Graciane, puisque c'est la période de la réforme et contre-réforme qui suivent. C'est la fin, on peut dire, un siècle d'or finissant, comme le rappelait Benito Pellegrin. C'est également une seconde scolastique qui est en train de s'achever. C'est l'émergence de la pensée de l'État moderne, déjà, qui s'est mise en place au XVIe siècle. Et si on se réfère au Criticon, évidemment, on pense au Criticon concernant le courant utopiste et Thomas More au XVIe siècle.
Alors, excusez-moi, parce que j'ai une question qui est restée en suspens, c'est le sens du titre, donc, Criticon. Donc, pourquoi ? Alors, on vient de parler de critique tout à l'heure. Stéphane Vaquero a parlé des différentes crises. Donc, alors, ces étapes de crise, comment comprendre ce titre, le mot ?
L'étape de crise et de critique, on peut penser quand même à la place tout à fait exceptionnelle qu'a Balthazar Graciane au point de vue de la philosophie politique, puisqu'il essaie de repenser le rapport entre la morale et la politique, indépendamment des concepts fondamentaux de la philosophie politique qui avaient prévalu jusque-là, c'est-à-dire l'état de nature, le droit naturel et le contrat social. Et c'est ça qui est quand même assez extraordinaire. Et aussi de penser dans le Criticon, il y a le rapport entre nature et culture, c'est-à-dire à la fois la culture et l'artifice, c'est ce qui humanise l'individu, mais on ne peut faire quand même l'économie de ce fond naturel, c'est-à-dire les passions. Et il faut bien régler ces passions. Et on les règle, comme le disait aussi M. Vaquero, par... Il y a la question du langage, et c'est le pouvoir du langage...
Stéphane Vaquero ?
Oui, Benito Pellegrin me contredira peut-être, parce que je ne me souviens plus, mais il me semble que le père de Graciane était médecin, non ?
Oui, petite noblesse.
Oui, c'est ça. Oui. Mais je veux dire, c'est parce que c'est la crise, au sens médical du terme.
D'accord. D'accord, oui.
Oui. Oui, oui. C'est...
Benito Pellegrin, alors, ce sens de ce titre. Et puis, en fait, de toute façon, je voudrais vous interroger sur votre traduction et votre présentation. Parce que le livre, c'est un gros livre qui est publié au Seuil, donc ça fait 500 pages à peu près. Hein. Donc c'est parfait. C'est un roman là, qui paraît bien. C'est pour au moment avant les vacances, on peut l'emporter. Hein, non, mais c'est un roman.
J'espère. Mais,
alors, justement,
Benito Pellegrin,
vous n'avez pas traduit en entier. Parce que, alors vous allez expliquer sur, parce qu'il y a déjà eu des traductions, il y a la traduction chez Alia, vous aviez vous-même fait une traduction avant. Alors, pourquoi cette présentation? Parce qu'il y a beaucoup de passages qui sont entrecrochés où vous résumez ce qui se passe. Donc, vous aidez le lecteur. Alors, est-ce que c'est pour justement nous en faire un roman de l'été qui nous rend les choses agréables, où il n'y a pas de répétition, etc. Est-ce que vous voyez juste justifier votre présentation de l'ensemble.
Oui, un roman de l'été, j'espère lire à l'ombre. mon éditeur, Jean-Luc Juribon, avec lequel je travaille depuis 83.
Oui, vous aviez publié les traités,
oui,
précédemment.
Sûr, et bien avant, bien
très
avant,
belle édition
en
des
83,
traités.
Arrêt figure de l'esprit, oui. avait estimé, nous avions discuté, et comme je travaillais depuis 1963, quand j'ai eu mon premier texte sur Gracian, qui avait déjà 200 pages, avait voulu, donc pour Arrêt figure de l'esprit, j'avais fait une introduction de près de 120 pages, hein, estimait que ma présentation se resituait dans une modernité le texte. Il estimait que c'était... je la remercie, que c'était très important de le restituer. Donc, ce qui fait que dans Art figure de l'esprit, en fait, j'avais pris le modèle de précédente, parce que c'était le seul livre, oui, oui, que Gracian avait repris.
Je vous cite dans la présentation, vous dites, bon, j'ai éludé l'aventure amoureuse de Critil, oui, d'un romanesque conventionnel, récit résumé dans le récit, j'émonde les 6 interminables pages de proverbes réformés que notre malicieux auteur lui-même qualifie de prolixe. Plus tard, vous dites aussi, j'élague les longues listes de centaines de personnages de l'histoire d'Espagne qui, muet pour le lecteur honnête homme français d'aujourd'hui, ne parle plus guère. Alors, pourquoi faire ça? Parce que, si vous voulez, à la fois, on a grand plaisir à lire le texte et en même temps, on se dit, voilà, mais pourquoi a-t-il coupé cela? C'est par exemple sur, je ne sais pas, c'est comme si... vous allez vous défendre, mais sur Rabelais, on disait, voilà, ah, Rabelais, c'est liste absolument interminable, ça nous casse les pieds, alors qu'on sait bien que c'est très important aussi la question de l'énumération. Alors, comment vous justifiez ces coupes?
Oui, Rabelais, mais Rabelais, c'est d'un français ancien, un français moderne. Là, oui, c'est d'un espagnol ancien, oui, à un français d'aujourd'hui. Oui. Et il n'y a pas ce qui est sauté, ça ne fait pas la valeur de l'introduction qui est très très longue, qui est un essai. C'est cela. Et bien il sûr. Y a ce problème-là. C'était au départ un roman en deux parties, vous dites, Gracian. Et nous sommes arrêtés dans la deuxième partie. Et quand il écrit la troisième, alors qu'il est condamné, qu'on lui interdit d'écrire, il le fait secrètement. Et là, il y a le gros problème. Oui, il y a des centaines de noms de personnages qu'il cite, qui sont, je vous dis, ça n'a pas de sens, même pas pour les Espagnols d'aujourd'hui, même très érudits, de personnages. Et souvent, ce sont peut-être des protections qu'il cherche. Par ailleurs, comme l'éditrice espagnole, qui est une... celle qui fait la bibliographie exhaustive de Gracian, entre autres, c'est Elena Cantarino. Elle-même, lorsqu'elle a fait l'édition, elle disait que souvent, elle se perdait parce que ça devient, surtout à partir de la seconde et troisième partie, très répétitif. C'est-à-dire que chaque crise, dont le somme criticon, c'est une somme de crises, une somme de critiques. Chaque crise qui situe les personnages par rapport à un problème, un piège de la vie, et ils le subissent, ils résolvent. Il y a une solution, il y a un choix et il passe à autre chose. Et le problème auquel ils sont confrontés, systématiquement, s'est passé au crible de tas de personnages anonymes, c'est-à-dire les femmes, les prêtres, les soldats,
vous nous facilitez les lectures.
Etc., etc., etc.,
mais alors,
etc.,
ce qui est assez amusant, je ne dis pas condamnable, hein, mais ce qui est amusant, c'est que dans les crochets, donc vous résumez, mais en même temps, on voit que vous êtes tellement en empathie avec votre auteur, c'est que vous mimez aussi un peu une relation de, donc cette fois-ci du traducteur et du voilà au lecteur. Parce que je cite par exemple votre passage entre crochets. Toi non plus, avisé lecteur, ce n'est pas l'aigle royal qui s'abaisse à des proies indignes, non pas voilà. Et donc vous vous adressez au lecteur.
Alors, oui, bien sûr, voilà. Parce que je ne crois pas qu'on puisse parler de poésie sans un poésie, d'esprit sans esprit. Et je crois que l'écriture elle-même, moi je me définis comme écrivain, j'ai toujours écrit.
Et vous endossez la position du sujet d'énonciation.
Bien sûr, puisque je résume, et c'est une espèce de clin d'œil aussi, qui répond au clin d'œil. Donc il faut que la façon de dire réponde à ce qu'on dit aussi.
C'est très amusant, c'est plaisant. Voilà. C'est simplement, je vous demandais un peu de le justifier parce que ce n'est pas ordinaire. Voilà.
Et mon éditeur m'avait dit, mais oui, c'est très bien ainsi, et il faut, et à l'intérieur, ça me permet, pour ne pas alourdir l'introduction, qui explique aussi ce que j'ai élagué dans ces crochets que vous citez, je fais aussi des commentaires que je ne mets pas en note, sinon ce serait absolument insupportablement universitaire. Parce que Gracian est un écrivain, il a fait une théorie du style, il se définit comme écrivain, et sa grande philosophie, qui embrasse tout le reste, avec cette vision ou ce désir sûrement d'auteur total, de tous les registres, c'est vraiment sa religion, c'est la religion du verbe, de l'écriture, du livre.
Donc c'est une édition, c'est bien ce que je disais, une édition pour tous, c'est pas une édition universitaire, c'est une édition aussi pour le plaisir de découvrir Gracian.
J'ai voulu lui rendre cet hommage parce que Gracian s'adresse à tous, malgré l'arcanisme ou la difficulté. Oui. Il a une ambition, c'est pas l'homme de cour, l'oracle manuel, c'est pas l'homme de cour, c'est l'homme tout court. Oui, une ambition totale et pour tous.
Alors voyons un petit peu justement quelques aspects de ce roman aux mille facettes, notamment roman, je disais, de moraliste. Parce que, bon, on a parlé du plaisir qu'avaient eu les moralistes français à découvrir Gracian. Alors là, ce ne sont pas des aphorismes. Mais malgré tout, il y a sans arrêt des considérations quand même très, très, très dures sur, par exemple, j'ai étonné sur la condition des serviteurs, qui sont meilleurs hommes que leurs maîtres, sur le mensonge et l'hypocrisie qui deviennent vertus, sur l'esprit des nations, sur le pouvoir pris par les femmes. Trop de pouvoir, dit Balthazar Gracian. Voilà, en fait, il y a toute une série de considérations comme ça, un peu acerbes ou sur les mœurs du temps. Est-ce que c'est ça qui aussi fait l'intérêt de l'ouvrage je vous disais, d'habitude, ce sont des aphorismes qu'on lit sur ces considérations à propos des mœurs de la société. Et là, non, c'est au gré des aventures des personnages. Non, Stéphane Vaccaro ?
Oui, ce qui est frappant avec le Criticon, quand on tente de le resituer dans l'œuvre de Gracian, c'est qu'il constitue en fait ce que moi j'appelle une véritable conversion du regard. Et de l'esprit. C'est-à-dire que toutes ces œuvres antérieures, le héros, El Politico, l'Oraculo Manual, pour faire simple, on va dire, ce sont des œuvres optimistes, au sens où elles donnent des conseils pratiques pour se bien conduire dans l'existence et notamment dans la relation avec les autres. C'est en ce sens que ça a plu aux moralistes. Et dans le Criticon, d'une certaine manière, on pourrait dire, c'est ce qui avait plu à Schopenhauer d'ailleurs, que c'est une œuvre pessimiste. Mais bon, je dis ça pour faire simple, si vous voulez, parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que c'est l'envers du décor. Si vous voyez, c'est l'envers du décor. Jusque-là, c'était des règles ou des descriptions de l'homme dans ses relations avec les autres. Voilà ce qu'il faut que tu fasses si tu veux t'en tirer bien. Et là, c'est un peu, la déconstruction du mécanisme.
Est-ce que vous dites, Stéphane Garou, moi, en tout cas, me paraît absolument essentiel parce que dans ce livre, moi, je l'ai fini avec cette impression de dire, voilà, est-ce qu'effectivement c'est un constat complètement désabusé où on a effectivement dénoncé toutes les illusions de l'humanité ou bien y a-t-il un cheminement malgré tout qu'assume la philosophie, on va voir si c'est au premier ou au second degré, mais un cheminement pour essayer justement de traverser ces illusions et accéder quand même à une certaine vérité. Et je trouve que c'est vraiment le nœud de ce texte.
L'une des notions essentielles du Criticon, et on pourrait dire presque de toute l'œuvre de Gracian, c'est elle désengagne. Elle désengagne, c'est-à-dire, on pourrait traduire en français la désillusion, mais c'est aussi le fait d'ouvrir les yeux. J'ouvre enfin les yeux sur le monde, sur les autres, et je le vois tel qu'il est.
Oui. Hein,
en ce sens, si vous voulez, il y a, comme on disait aussi au XVIIe et au XVIIIe siècle, quelque chose qui relève du désabusement. D'ailleurs,
je vais prendre un exemple pour abonder dans ce sens et poser la question aussi politique à propos des yeux. Il y a un passage dans la deuxième partie où il rencontre, donc les deux personnages rencontrent Argus, donc figure mythologique, donc avec tous ses yeux. Et donc la question, il y a une sorte de débat pour savoir où est-ce qu'il est bien d'avoir des yeux. Hein, est-ce qu'il est bien d'en avoir sur les épaules, dans le dos, pour voir qui surgit, voilà. Et alors, voilà, à un moment donné, donc, sur les différentes considérations de la bonne place des yeux, voilà le dialogue, je vous le lis. La meilleure solution, dit Critil, c'est de ne s'appuyer sur rien, de rester seul et de vivre heureux en philosophe. Alors, Argus se mit à rire et dit « Si un homme ne cherche pas un appui, tout le monde le laissera, je ne dis pas vivre, mais tomber. Sans accoudoir, inutile de jouer des coudes, sans épaulement, nul ne prête l'épaule. On ne fera rien pour vos beaux yeux. Même un fort pilier, par ses mérites, s'écroule sans contrefort. D'ailleurs, pour être connu, même les annonces ont besoin des médias, de solides supports et les affiches d'un bon mur. » Ça, c'est étonnamment actuel. Voilà les... Alors, Andrénio dit « Ah, voilà les yeux que je veux et pas ceux des genoux. Je renonce donc aux yeux des genoux, juste bon à prendre de la poudre plein les yeux et à s'écraser comme des œufs dès qu'on s'agenouille. » Et voilà ce que répond Argus. « Mais regarde-y à deux fois, rétorqua Argus, ce sont là les yeux les plus pratiques, car les plus politiques. Ce n'est rien pour toi d'avoir l'œil sur un homme devant qui l'on s'incline et plie le genou, sur l'idole qu'on adore et dont on espère le miracle, car il y a des icônes démodées qu'on n'a plus besoin de fêter ni d'idolâtrer, vieilles figures de cartes usées écartées par la fortune. Ces yeux servent à deviner le gagnant du jour pour entrer dans son jeu, bien miser et ne pas perdre. » Alors là, on se dit, mais alors c'est d'un cynisme incroyable, c'est d'une actualité incroyable. Malheureusement, c'est toujours le cas, les gens qui effectivement vont adorer les gens uniquement parce qu'ils ont la cote et puis ensuite cracher dessus lorsqu'ils sont à terre. Mais en même temps, voilà, on peut se dire, est-ce qu'il y a un conseil politique cynique dans cette affaire, Jean-Paul Coujou?
On peut dire, à la lecture de ce passage, être, c'est s'apparaître les uns aux autres. Et par conséquent, ce que je suis est déterminé par le regard de l'autre. À la fois, effectivement, il y a une nécessité de maîtriser sa propre image. Et d'ailleurs, pour reprendre la référence à Schopenhauer, on pourrait dire que dans le Criticon, la pire des illusions, c'est de se croire sans illusion. Et la première des illusions, c'est celle que l'on a par rapport à soi-même. Et donc, il faut, par rapport au regard d'autrui, arriver à refaçonner cette image de soi.
Est-ce que c'est un roman politique, dans ce sens où, après une critique de si vous voulez, à propos des yeux, là, hein, on sent bien qu'il y a une critique aussi de Platon, cette distinction entre les yeux du corps et les yeux de l'âme, ces yeux qui doivent amener à la vérité. Et là, ce sont des yeux, pour le coup, très politique. Hein. Il s'agit de bien voir qui peut nous aider. Bon, Graciane sait de quoi il parle. Hein. Savoir repérer les bonnes stratégies à l'intérieur des luttes de pouvoir.
Il faut savoir voir, mais il faut savoir également dissimuler. Il y a la fameuse distinction que fait un contemporain de Graciane, Torquato Aceto, sur simuler et dissimuler. Simuler, c'est montrer ce qui n'est pas. Et donc, la différence, dissimuler, pour Graciane, c'est nécessaire à l'art de gouverner. Il n'est pas possible de conserver durablement le pouvoir sans dissimuler. C'est la maîtrise de l'autre qui est en jeu dans cette dissimulation de soi. Donc, à la fois, il faut lire en autrui, et on a besoin du regard d'autrui pour lire en soi, mais à la fois, il faut se méfier de ce pouvoir de l'apparence. Parce qu'on voit bien d'ailleurs dans le pouvoir du langage et du masque, c'est le rapport entre la réalité, le masque, l'être et l'apparence. Puisque chez Graciane, on peut dire qu'ontologiquement, on ne dissocie pas l'être de l'apparence. Et que l'un est aussi important que l'autre.
Nous reprenons les Vendredis de la philosophie consacrés à la figure de Balthazar Gracian et plus précisément à ce livre, donc le Criticon, dont Benito Pellegrin vient de donner une nouvelle traduction et une nouvelle présentation. Alors, on se posait des questions. Voilà. Est-ce un roman philosophique? Est-ce un roman de moraliste? Est-ce un roman politique? Est-ce que le mot, en quelque sorte, qui permettrait quand même de rendre compte de ces aspects et voir aussi de ces contradictions, je vais y revenir encore, ce ne serait pas le mot de baroque? C'est aussi un mot, Benito Pellegrin, que vous travaillez depuis longtemps. Vous venez de faire paraître aux éditions Sulliver d'un temps d'incertitude, hein, qui est une méditation aussi sur cette notion de baroque et qui aussi reprend un certain nombre de réflexion que vous donnez sur Balthazar Gracian. Alors, qu'est-ce que ça peut signifier de dire, je crois que Stéphane Lacour l'avait aussi évoqué, un texte baroque. Est-ce que c'est quoi, alors, l'éloge ou la dénonciation de l'inconstance? Et j'aimerais bien d'ailleurs, vous voyez, que vous me disiez un peu, voilà, pour vous, ce qui est le plus important, est-ce que c'est la mise en scène des apparences pour dénoncer un monde, justement, du coup, d'hypocrisie, de dissimulation, ou au contraire, y a-t-il l'éloge, c'est-à-dire, voilà, la vie n'est faite que de masques, alors on ne va pas trouver la vérité derrière, donc allons-y, amusons-nous à déjouer et à jouer.
Certainement, les traités de Balthazar Gracian, jusqu'en 1647, ces traités sont des traités politiques, moraux, qui exaltent. Ce sont des traités de la réussite, comme le suggérait Stéphane Vaquero, qui donnent des recettes du succès en ce monde-ci, dans ce monde de ce théâtre du monde. Comment devenir le héros, comment devenir le politique, comment devenir le bel esprit, comment devenir l'homme qui réussit dans l'oracle manuel et art de la prudence. Ici, c'est un renversement, qu'on pourrait dire aussi baroque, après tout, si on concède que le baroque procède par renversement, c'est une révocation en doute systématique de tout ce jeu de l'apparence dont parlait justement Jean-Paul Coujou. Tout est révoqué en doute. C'est sûrement ce qui a fait scandale, puisqu'il révoque sans doute, se révoque-t-il lui-même en doute en jouant de Lorenzo Gracian, le critique qui peut récuser ce criticon critique, et donc criticon aussi, dans l'autre sens qui s'est retourné contre lui, signifie en espagnol le criticatre, celui qui critique systématiquement. Donc il joue somme de critique, et évidemment avec ce jeu de mots typiquement baroque qui se retourne contre lui, qui critique systématiquement n'importe qui et n'importe quoi. Ce qui fait qu'il y a des suites d'allusions qui semblent des allusions très personnelles mais anonymes, critiques très sévères, et tous ces éloges que j'ai souvent enlevés, des flagorneurs, des personnages qui sont nommément cités. Et je rappelle le discours de Robespierre à la Convention, qui fait que tout le monde s'est retourné contre lui et il a été renversé, c'est Thermidor. Il menace tout le monde sans citer qui que ce soit. Évidemment, tout le monde a peur, et il y avait de quoi sous la terreur, et tout le monde se retourne contre Robespierre. Tout le monde se retourne contre lui, du moins dans son entourage. Et c'est baroque parce que cette dénonciation systématique, il semble renverser aussi toutes les valeurs qu'il a jusque-là exaltées. Oui, oui. Comment réussir en politique? Alors, c'était l'édification, au double sens du mot, du grand homme, ou l'édification édifiante moralement, bien sûr. Mais ici, cette édification, il la démonte pièce à pièce.
C'est ça qui est assez fascinant. C'est-à-dire que dans ce dernier livre, hein, dans ce roman... on voit un retour de toutes les figures qu'il a traitées effectivement dans ses œuvres précédentes, et elles viennent effectivement dans une espèce de manège, hein, là où on ne sait plus si effectivement il fallait se soutenir ces thèses précédentes, ou au contraire s'il les renverse dans ce roman. Donc c'est un roman très aussi spéculaire, on peut dire.
Absolument, absolument spéculaire, puisque souvent c'est mot pour mot des reprises de ces textes, oui, mais dénoncés. Et toutes ces valeurs, il faut le dire, aboutissent à la grotte du néant, qui est un des chapitres essentiels.
Justement, j'étais en train de chercher le passage là, et je vais reposer ma question un peu sur l'ambivalence du constat. Un passage allégorique sur la vie de l'homme. Voilà ce qu'écrit Balthazar Gracian. Il entre en scène en pleurant dans ce théâtre pour la tragédie. Donc c'est ce que vous venez de rappeler, le théâtre du monde. monde, un thème très baroque. On commence par lui chanter et l'enchanter avec des simulacres. Il arrive nu et repart tout nu. Et il n'emporte rien après avoir servi des maîtres aussi avares. Il est reçu par le premier menteur, le monde. Il lui promet beaucoup, mais il ne tient rien, etc. Bon, je passe. Et à la fin de ce texte, voilà la conclusion. Le temps vole, la vie s'achève, la mort arrive, la tombe le couvre, la pourriture le défait, l'oubli l'anéantit. Celui qui hier était homme est aujourd'hui poussière et demain néant. Hein. Alors il y a quand même cette thématique aussi du néant, la grotte de néant aussi, hein, qui fait que c'est ça semble aussi un roman très très sombre.
Oui et non, là encore une fois nous sommes dans l'ambiguïté et je nuancerai ce que disait Stéphane Vaquero du pessimisme dont on dit que Schopenhauer tire son pessimisme radical. Moi je ne le vois pas pessimiste, puisqu'il renverse toutes les théories précédentes de ces traités, ici dans un roman qui est un autre genre, c'est une fiction dont il y a aussi le problème du genre et la systématisation de la critique. Critiquons, c'est une systématisation dont il joue jusqu'au bout avec la contrainte qu'il s'est donnée. C'est-à-dire que ici, c'est une... Sûrement, chez Gratien, il y a pensé d'un existentialisme chrétien. Il y a une essence de l'homme qui est donnée par le christianisme, si on a la foi. Mais ici, ça n'apparaît pas clairement, parce que tout se passe dans une sorte d'immanence terrestre, même s'il y a des allusions, virtudes, la vertu religieuse, les commandes, etc. C'est tout dans une espèce ici et maintenant, mais l'homme qui est de brut... passe à un statut par le choix permanent, par la solution qu'il apporte au piège de la vie ou les problèmes à résoudre, qui sont des problèmes aussi rhétoriques qu'on trouve dans l'écriture, dans la représentation. Il arrive au statut de personne par le choix, par une espèce d'engagement personnel sur certaines valeurs. Donc chaque fois, il y a un processus de fuite. Critil et Andrénu, surtout Critil, voient les problèmes de la vie, des guides providentiels passe par là les aides, parce que dans la conception jésuitique du monde, l'homme n'est jamais seul abandonné. Il a toujours la faculté de choix et donc il est libre et responsable. Et là, il y a un engagement et ce qui est très important, puisque c'est la recherche de la personne avec un grand P et qui n'est pas la personne au sens latin, le masque.
Oui. Stéphane Aguero.
Oui, c'est pour prolonger ce que dit Benito Pellegrini, il y a cette notion qui traverse aussi toute l'œuvre de Gratian, qui est la notion de persona. Et donc Gratian joue de l'ambivalence en permanence.
Allez-y, expliquez-leur. C'est quoi le sujet, le masque, figure
C'est les deux.
La figure
c'est les deux.
C'est-à-dire que, théâtrale.
C'est-à-dire qu'il y a un passage dans le Criticon où Critil se retrouve enfermé après moult péripéties en prison et il dit au fond, voilà, cet état d'isolement, de pauvreté, c'est un état qui m'a permis de devenir ou de commencer à devenir une personne morale. Mais en même temps, la personne n'est rien d'autre que ce jeu d'apparence, justement, cette persona. Le masque. Et c'est en ce sens qu'il me semble que ce roman est typiquement baroque, au sens où, outre la profusion des détails, on s'y perd, des mises en abîme en permanence, c'est une mise en œuvre d'une subjectivité baroque. Parce qu'on a effectivement Andrénio et Critil, qui sont les deux éléments de la personne, qui sont à la recherche d'une troisième, Felicinda, qui est la mère, qui ne trouveront jamais, et qui ne trouveront d'une certaine manière que dans le guide, que, comme vous l'avez évoqué tout à l'heure, il y a Argus, mais il y a aussi Chiron et Janus, qui se situent toujours à la croisée des chemins. Hein, c'est au moment où on va choisir qu'intervient le guide. Et comme le dit une critique de Mercedes Blanco, une critique de Gratian, la figure du guide, c'est la figure de l'unité des deux personnages. Hein, c'est-à-dire qu'on a affaire à un sujet, mais c'est un guide monstrueux. C'est-à-dire que l'unité des deux personnages, ce qu'on pourrait appeler le sujet, est forcément monstrueuse. On ne peut pas parvenir à cette parfaite coïncidence à soi que serait le fameux cogito cartésien. On est en permanence dans cette conception complètement baroque d'une subjectivité éclatée.
Jean-Paul Cujou.
Oui, tout à fait. Concernant la notion de personne, prosopon en grec, persona en latin, c'est à la fois la présence et l'absence. Et effectivement, Gratian joue sur la présence d'une absence. Et pour en revenir justement à la question du baroque, et là on retrouve une des spécificités. La spécificité du baroque, c'est la nécessité de transformer la vérité pour la dire. Et c'est la raison calculatrice qui va la présenter de telle manière qu'elle soit à la fin acceptable à l'esprit. Il y a un processus qui consiste à différer la production de cette vérité parce que les passions humaines sont telles qu'elles amènent les hommes à s'affronter. Et donc, par conséquent, il faut construire une manière adéquate selon la théorie, on peut dire, de l'instant opportun, du kairos, du moment opportun. Là, on retrouve une influence de la sophistique chez Gracian, savoir choisir le moment qui convient pour dire la vérité. Il s'agit de faire être ce que l'on dit momentanément avant de dire ce qui est.
Tout à fait. Alors Jean-Paul Coujou, justement, ce moment opportun, il faut savoir le saisir, effectivement, dans la vie. Donc il peut y avoir des conseils. Mais alors, est-ce que le véritable moment opportun, ce n'est pas la fin, c'est-à-dire la mort, lorsque, effectivement, ensuite, on va devoir se présenter devant le suprême juge. Et je voudrais, là, vous poser la question du rôle, de ce point de vue-là, de la philosophie. Est-ce que la philosophie, pour Gracian, est le guide malgré tout, pas forcément monstrueux, mais le guide qui va permettre d'accéder au bonheur et à la vérité. Et là, je vais aussi, parce que je crois qu'il faut faire droit au texte, lire le passage justement où ils sont conduits vers le paradis. Voilà comment Gracian le présente. Le pèlerin, donc, vient avec... Le personnage s'approcha et sollicita son entrée avec les deux camarades. Le mérite leur demanda leur patente et vérifia si elles étaient légalisées par la valeur et authentifiées par la réputation. Il les examina fort attentivement et commença à hausser les sourcils avec une mine admirative. Et quand il vit qu'elles étaient abondamment rubriquées et signées par la philosophie, dans le grand théâtre de l'univers, je relis, la philosophie, donc, dans le grand théâtre de l'univers, par la raison et ses lumières dans la vallée des bêtes, par l'attention dans l'entrée du monde, alors là, c'est là que commence une grande énumération comme il y en a plein, par le connais-toi toi-même dans la morale anatomie de l'homme, par l'intégrité dans les gorges des coupes-jarrets, par la circonspection dans la source de l'erreur, par la réflexion dans le golfe de la cour, c'est Madrid ça je crois, le golfe de la cour, par l'expérience cuisante dans la maison de Falsirène que vous aviez cité Stéphane Vaquero, par la sagacité dans les foires du monde, par la sagesse dans la réforme universelle, par la curiosité, bon, je passe, et j'arrive à la fin, donc par la grande valeur dans la grotte du néant, par la félicité découverte, par la constance dans la roue du temps, par la vie dans la mort, par la gloire dans l'île de l'immortalité, il leur ouvrit grandes les portes de l'arc de triomphe, de la demeure de l'éternité. Ce qu'ils y virent, ce dont ils jouirent et se réjouirent, qui souhaitent le savoir et en faire l'expérience, n'a qu'à prendre le chemin de la vertu, un signe de la valeur héroïque, et il finira par arriver dans ce théâtre de la gloire, au trône de l'estimation et au centre de l'immortalité. Alors, cette fin semble bien édifiante, mais en même temps, j'avoue que là, on reste un peu dans le jeu des miroirs. D'abord, le théâtre de la gloire. Est-ce que la gloire, donc dans l'au-delà, est encore un théâtre ? Certes, c'est l'immortalité, c'est la vérité, mais on a vu quand même que dans cette accumulation, il pouvait y avoir aussi peut-être du jeu, de l'humour. On est dans un feu d'artifice pour cette conclusion. Alors, comment comprendre cela ? Est-ce que c'est édifiant ou pas, Benito Pellegrin ?
C'est édifiant du point de vue de la philosophie de l'écriture et de l'art, parce que la troisième partie du Criticon ne présente que 12 chapitres, alors que pour un maniaque géomètre et orfèvre de l'écriture et de la construction qu'est Gracian, les autres parties ont 13 chapitres. Le chapitre manquant, c'est ce que vous venez de lire, le point final renvoie au début, à l'île, la première île du début qui est comme un point. Oui. C'est-à-dire, il faut refaire la lecture, il faut refaire le cours de ta vie en un discours, il faut refaire relire le texte. C'est-à-dire que relire le texte, c'est revenir au début, c'est revenir à l'enfance, c'est le cercle perpétuel, c'est l'éternel retour, puisqu'il y a une crise qui s'appelle l'éternel retour, quelques chapitres précédents. C'est-à-dire que pour moi, c'est la philosophie de l'art, le premier emploi de l'homme, dit Gracian, et c'est pour quoi, moi je dis que ce n'est pas une œuvre pessimiste, fut sans doute le premier emploi de l'homme dans le paradis. L'art fut sans doute le premier emploi de l'homme dans le paradis. Et au début du roman, où Critil est en train de se noyer, il dit « Ovi, tu n'aurais pas dû commencer ?» mais puisque tu as commencé, tu ne devrais jamais finir. Et étant donné que ce livre, c'est un livre de vie, puisque ce sont les saisons de la vie, du début à la fin, invité au début, c'est invité à refaire le cours de la vie en un discours, c'est-à-dire ne cesser jamais de lire, ne cesser sans doute jamais d'écrire, puisque Gracian, dans ses notes, il met toujours des notes au début de départ de tous ses livres et de chaque partie du Clitigone. Il dit qu'il rêve d'un livre qui serait si long qu'on ne cesserait jamais de lire ou d'écrire ou de vivre, puisque écrire et lire, c'est la vie, ou si court qu'on le saurait par cœur. Non, pour moi, c'est ce qui clôt, évidemment, son œuvre, finalement. Et il meurt quelques mois après, et qui donne une philosophie de l'art qu'il faudra attendre, sans doute, il y a le 19e siècle, avec ce qu'on prête à Wagner, et le 20e siècle, Proust. Et moi, pour moi, c'est une anticipation de ces romans qui veulent présenter une espèce de totalité d'expérience humaine, et l'expérience suprême, ce qui fait, puisque tout se passe ici-bas, et ça n'est pas exactement le paradis ni le bonheur, puisque cette île-là est terriblement terrestre. Ça se passe ici-bas, c'est une île, c'est l'île...
Bien sûr, mais elle est allégorique.
Elle est allégorique, bien sûr. Elle est allégorique, puisque Félicinde, ils ne l'ont pas trouvée. Oui. Félicinde, qui est le bonheur aussi, dont l'épouse et la mère, et le bonheur imaginé dans chaque âge de la vie, dans l'amour, dans le pouvoir, dans les richesses, etc., dans la jouissance aussi, eh bien, le fou dit qu'elle est au ciel.
Alors, il y a la littérature, mais encore une fois... Que peut la philosophie ? Parce qu'à un moment donné, d'ailleurs, il y a une considération très pessimiste sur le fait que sur la place publique, la philosophie ne peut absolument pas lutter contre les bonimenteurs. Hein. Il dit voilà, on peut installer une échoppe et essayer de vendre des vérités, ça ne marchera jamais. En revanche, on peut vendre toutes les superstitions qu'on veut. Là, il y a de l'avenir, effectivement. Là encore, quelle actualité. Mais voilà, donc que peut la philosophie ? Est-ce que la philosophie ici... s'agenouille devant la littérature pour dire voilà, il faut construire des fictions et refaire le tour des îles comme vous venez de le dire, Benito Pellegrin, ou bien la philosophie peut-elle quand même, malgré tout, dans ce monde des illusions, dans ce néant, permettre d'accéder à certaines vérités, sinon à la vérité. C'est quand même le statut aussi de la philosophie qui est posé, la question du statut de la philosophie qui est posée dans ce recours tout d'un coup à un texte qui a un régime d'écriture si différent, non ? Alors, qu'est-ce que vous me donnez comme réponse, Jean-Paul Cujo ?
On peut invoquer la philosophie comme art, et qui permet d'une certaine manière d'accéder à ce que Gracian appelle la vertu, on n'a pas le temps de développer ici, mais qui permet effectivement de rester dans la mémoire des hommes. Et cette gloire dont on parlait tout à l'heure, c'est peut-être pas tant une gloire divine qu'une gloire proprement humaine. Et là, on reviendrait dans le terrestre, proprement dit. À proprement parler.
Oui. Donc philosophie à usage du terrestre.
Oui, c'est ça. Stéphane. Oui. Et je préciserai simplement, c'est que Gracian, parmi ses sources nombreuses, il y en a une qu'on ne peut pas négliger de ce point de vue, c'est Sénèque.
Oui, d'ailleurs, il dit que, voilà. D'ailleurs, dans le passage auquel je faisais allusion, il dit à la fin voilà, que Sénèque n'a plus aucune place sur la scène, place publique.
Et de ce point de vue, ce que peut la philosophie, ce que nous apprend la philosophie d'une certaine manière, c'est, on va dire, elle nous apprend à mourir traditionnellement, mais elle nous apprend aussi à vivre seul. Et c'est en ça, le sage vit seul. C'est en ce sens que. Je vis seul. Alors c'est là où il peut y avoir une unité de l'œuvre de Gracian, c'est que je vis seul parmi les autres. Oui. C'est pour ça que l'île est à la fois terrestre et.
Oui, mais je vis seul. Dans quelle lumière ? C'est avec quels yeux ? Puisqu'on parlait tout à l'heure des yeux.
Les yeux de la philosophie.
La référence à Platon, quand même, elle est dès le départ avec ce coup de la caverne, quand même. Il sort d'une caverne. Et pour quoi faire ? C'est pas pour accéder à la vérité.
Exister, c'est dans la solitude, mais vivre, c'est. Coexister, c'est être nécessairement avec les autres, c'est bien ce que montre aussi l'île déserte, c'est bien ce que montre aussi la politique.
C'est qu'il y a, si vous voulez, Benito Pellegrin a raison de le dire, c'est que, vous voyez, ce roman, il fonctionne comme une boucle. C'est qu'on est au début à la fin, et à la fin au début. À chaque fois, on est sur une île, et on a traversé le monde. Et finalement, on a traversé le monde, et il ne s'est rien passé. Il ne s'est pas passé grand-chose. C'est qu'en fait, le sage vit seul, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il n'aurait jamais fallu partir de l'île où on était. On s'est trompé en partant de l'île où on était, et on va revenir sur une île parce que
on revient pas dans la caverne.
on ne revient pas dans la caverne, mais la caverne, d'une certaine manière, on en est toujours déjà sorti, puisque seul Andrégnaud était dans la caverne. Seul Andrégnaud était dans la caverne. Donc, on revient sur une île. Entre les deux, il y a eu le monde, et on s'est aperçu que dans le monde, il n'y a rien de bon à en tirer, pour le dire simplement. Et donc, on retourne sur une île, mais finalement, c'est toujours la même île. C'est cette île où je suis seul, et où je vis dans l'immortalité, effectivement. Je vis dans l'immortalité grâce à la philosophie. C'est la philosophie qui m'apporte l'immortalité.
L'insularité, c'est la singularité. Mais imaginez qu'en allant au stick, qu'on fasse un naufrage, on se retrouve exactement au début. Mais la philosophie aide à résoudre ce problème fondamental, qui est cette espèce de suture du moi. C'est-à-dire que l'homme, comme dit Gracian, et le monde, est un composé d'opposés. S'écrit-il ? C'est la raison et c'est Andrénio. Mais il n'y a pas cette espèce de pure conscience. Et le renversement, c'est que dans le premier livre, disait phrase prise par La Rochefoucauld, il veut être fou avec tout ce que sage tout seul. Mmh. Ici, évidemment, la sagesse est seule passera pour folie, mais c'est peut-être une folie à assumer, étant donné la folie du monde.
Alors, assumons cette folie. Merci. Et je recommande fortement aux auditeurs donc la lecture de ce texte vraiment étonnant, le Criticon, donc paru au Seuil dans la présentation et la traduction de Benito Pellegrin. Je recommande aussi de Benito Pellegrin, évidemment, D'un temps d'incertitude aux éditions Sulliver. Merci à vous aussi, Jean-Paul Coujou. Je rappelle que vous avez publié chez L'Harmattan Philosophie politique et anthologie. Merci Stéphane Vaquero. Voilà, c'était les Vendredis de la philosophie, présentés par François Nodelman avec la collaboration de Marianne Chasseur, à la technique Adrien Roch, réalisation Clotilde Pivin. Et je vous donne rendez-vous donc la semaine prochaine, le 27 juin, pour une émission sur l'insurrection démocratique avec Jean-Luc Nancy et Jacques Rancière.